بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم جزاك الله رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بشيخان الإسلام dans ces deux hadiths, on va s'approcher inshallah, dans ces deux hadiths, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait bien comprendre, il y a différentes choses à retenir. C'est un hadith tellement riche en enseignements. Allah seul sait combien de hikmat, de sagesse contiennent ces deux hadiths. Et dans ces deux hadiths, avec le hadith, si on a l'occasion, le troisième qui va s'en suivre, il y a la solution pour tous les problèmes de l'humanité. Il y a la solution pour n'importe quelle calamité, n'importe quel problème qui peut toucher une personne, à condition qu'il y ait iman dans son cœur. S'il y a iman dans notre cœur, on voit ce qu'Allah a révélé dans le Coran, on voit ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a reçu comme wahi, comme révélation, on est capable de le mettre en pratique, alors nous sommes les plus grands gagnants. Nous sommes les vainqueurs, on pourrait dire, de le bonheur comme de le malheur. Et ça, c'est exceptionnel, ça. Le musulman, dans les situations favorables, tout comme dans les situations défavorables, s'il suit les commandements d'Allah et les commandements du prophète, alayhi salatu wassalam, assurément, il sera vainqueur, assurément, il sera le grand gagnant. Même si de l'extérieur, on le voit affaibli, apeuré, on voit comme si c'est une personne qui fait pitié, dont la situation n'est pas enviable, mais ce qu'il a comme joie, comme contentement, comme sakina, comme tranquillité dans son cœur, ça personne ne peut imaginer, quelqu'un qui n'a pas la foi, ne peut imaginer, ne peut comprendre et ne pourra jamais vivre un poisson de cette quiétude qu'il y a dans son cœur. On a vu l'exemple d'Ibn Qayyim, rahimahullah, quand il était emprisonné, on a vu ça il y a quelques mois, quand il était emprisonné, il disait que vous voyez que je suis dans une prison, mais dans mon cœur, il y a un paradis. Pourquoi il y a un paradis dans mon cœur? Parce que dans mon cœur, je sais que ça, c'est une épreuve de la part d'Allah. Et mon cœur est relié en permanence avec Allah. Par le biais de dhikrullah, par le biais de la lecture du Coran, j'ai la tranquillité, la quiétude dans mon cœur. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, c'est une épreuve. Ce qui m'arrive, ça a été destiné. Allah avait écrit dans mon taqdir. Et quelle que soit la situation, la chose qui m'arrive, tout vient de la part d'Allah. Et Allah est hakim, adl. Allah est sage. Et Allah, il fait preuve d'équité. Il ne fait volme oppression sur personne. Ça, c'est la tranquillité qui doit normalement habiter le cœur d'un musulman. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit reconnu dans la société, qu'on ne soit même pas reconnu, qu'on soit responsable, PDG, directeur, diplômé, bac plus 10, 12, 13, 14, ou qu'on n'ait rien du tout, si dans le cœur du musulman, il y a l'amour pour Allah et son prophète, un, et il y a la confiance totale en Allah et son prophète, deux, et il y a la confiance et la certitude sur tout ce qu'Allah a dit, et sur tout ce que le prophète a dit, trois, et on les met en pratique dans notre vie, on est l'homme le plus heureux. Il n'y a personne qui peut nous égaler en termes de joie, en termes de tranquillité. Celui qui a la pensée d'Allah dans son cœur, il y a quelque chose qui s'appelle al-itmi'nan, la quiétude, la tranquillité. Et ça, ça n'a pas de prix. Il y a des gens qui essaient de l'acheter. Il y a des gens, quand ils sont riches, ils vont acheter un yacht. Ils vont aller faire des voyages un mois dans les Caraïbes ou je ne sais quoi. Ils vont boire du meilleur champagne. Ils vont manger des meilleurs chers, langoustes, homards, du veau, du je ne sais quoi. Ils vont avoir les plus jolies filles autour d'eux. En pensant, ils vont fumer les meilleurs pétards. En pensant qu'avec ça, ils auront la tranquillité de leur cœur. Mais là, wallahi al-azim. Parce que la quiétude, la tranquillité du cœur ne peut s'obtenir avec les choses qui sont périssables. Avec les choses à propos duquel le cœur se lasse. Quel que soit le degré de richesse, on l'a déjà dit, mais ça c'est un rappel. Regardez l'homme le plus riche au monde. Allez lui demander, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tous les jours tu es de plus en plus heureux? Ou alors ne serait-ce plus en plus heureux, non, peut-être plus en plus peureux. Plus on a, plus on a peur. Et demandez-lui également, est-ce que de jour en jour, sa joie est stable? Si on branchait les, comment on appelle ça, les trucs à l'hôpital, là, pour le cœur, s'il y avait ça pour voir ce qu'il est tranquille dans son cœur, on verrait que de jour en jour, ça diminue. Parce que même un homme qui habite dans un château, qui a les plus belles voitures, à un moment donné, on finit par s'en lasser. Là, je m'adresse aux jeunes. Vous voyez les derniers paires de Nike qui sont sortis, dernier paire d'Adidas ou je ne sais quelle chaussure que les jeunes aiment. Ça coûte 500 euros, allez, disons. Je ne sais pas si ça existe, mais ça peut exister. 300, 400 euros. On a économisé, on a fait quelques business, tout. On a eu les moyens. J'ai l'argent, je vais acheter les baskets, là. Je suis heureux, là. Comme je mets, là, c'est comme si, presque comme si j'ai envie de marcher sur mes pieds, sur mes mains, pour que mes pieds soient en haut, tout le monde voit. Là, si je vais dans le bus, je vais mettre mes pieds comme ça. Tout le monde voit que j'ai les nouveaux baskets. Je vais être content lundi, mardi, mercredi. Yallah, usbour, une semaine. Yallah, 10 jours. Après, ça deviendra une paire de chaussures. Après, ce sera une paire de chaussures comme une autre. Alors que j'ai économisé peut-être 2 mois pour avoir ça. Mais après, c'est ça, Dunia. C'est Fanny. Regardez maintenant, il y a le iPad qui vient de sortir. Il y avait le iPhone, il y avait le... Je sais quelle qualité de moyen technique. Il y a le iPad. Tout le monde parle d'iPad, iPad. Hein? Peut-être qu'une personne va économiser, ça coûte 900 euros pour l'instant à La Réunion. Une personne va travailler, va acheter lui, il sera heureux. Il va se faire avec ça, il va envoyer des SMS, des MMS, des images, il va télécharger. À un moment donné, le iPad deviendra comme un ordinateur, basta. C'est pas que le jeune va se lever dans la nuit ou dans la matinée, il va s'émerveiller, il va embrasser son appareil. Non, au début, il sera content. À un moment donné, mes chers frères, on s'en lasse. Prenez l'exemple de quelqu'un qui achète la dernière voiture. Combien de temps il va bichonner la voiture tout le matin, il va nettoyer, il va mettre des pressions dans les pneus, il va les gentils, un petit truc, il met le spray spécial et tout. À un moment donné, ça deviendra un moyen de transport. Quand j'ai eu ma voiture, je vais voir le créneau, il fallait faire attention. Maintenant, créneau, la cognée derrière, bon, la cognée, l'accrocher, ben alors. On s'en lasse. Dunia, c'est éphémère. Éphémère sur le plan temporel, bien sûr, au bout de quelques années, c'est fini. Mais éphémère concernant le ta'alluq, la relation avec les cœurs. À un moment donné, le cœur, il finit par lâcher. Il n'y a que l'amour d'Allah et son prophète qui procure une joie en progression constante. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour un serviteur, Allah il fait telle chose. Lorsqu'Allah veut du mal pour un serviteur, Allah il fait telle chose. Alors qu'est-ce qu'Allah il fait dans les deux cas de figure? Et là, on voit la frontière qu'il y a entre ma vision du monde à moi et les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith qu'Allah me dit, lorsqu'Allah ta'ala veut du bien pour une personne, Allah ta'ala il fait en sorte que tous ses péchés seront expiés, c'est-à-dire seront pardonnés dans ce dunya. Et à travers ce hadith, la première partie, nous comprenons tout d'abord, quand on dit qu'Allah il veut du bien pour quelqu'un, Allah il fait. Allah il veut du mal pour quelqu'un, Allah il fait. Ça veut dire quoi? Tout est dans les mains d'Allah. Allah il veut vous élever, lundi soir il vous élève. Il veut vous rabaisser mardi fajr, il vous rabaisse. Allah, il veut vous enrichir ce soir, il vous enrichit. Il veut vous appauvrir demain, et vice versa. Tout est dans les mains d'Allah. D'accord? Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah, il fait ce qu'il veut, quand il veut, selon la hikmat, selon la sagesse qu'Allah, il connaît. Parfois, on veut quelque chose se produit. Mais Allah, il décide que son aide, son nusrat viendra après. Regardez, il y a des événements qui font mal le cœur. N'importe qui, regarde l'actualité, on n'a pas le droit d'en parler, mais il y a des choses qui se passent dans le monde qui touchent n'importe quel musulman. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'Allah va aider? Ya, cher, notre prophète, alayhi salatu wassalam, fait la salade de la haram, les gens, ils viennent, les mouchriquins, ils déversent les intestins de chameau sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr s'assoit comme moi, je suis assis, il invite les gens vers Allah, les gens, ils viennent, ils le frappent tellement, son nez était cassé, il était complètement défiguré, sa famille ne le reconnaissait pas, il était sans connaissance, on a dû le réanimer. Etc, etc. Les sahaba, ils ont connu des dieux. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, reçoit des coups de cailloux, son sang moubarak tombe jusqu'à coller ses sandales. Et quand est-ce qu'Allah a envoyé la nusrat vraiment, à part 13 années après, à partir de l'immigration vers Madina, Munawwara, et puis peu à peu progression après Badr, après Uhud, où les tribus arabes ont compris que l'islam, la vraie religion, sont rentrés. Et la grande nasrullah, c'était la conquête de Makka en l'an 10 de l'Hégire à peu près. C'est-à-dire combien d'années il fallait attendre? 23 années presque, 22 à 23 années. Là, l'aide d'Allah est venue de manière tam, complète. Il a déjà un nasrullahi wal fath. Et là, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Les gens, ils sont entrés dans la religion d'Allah massivement. Alors qu'au début, il y avait un Nabi, il y avait Abu Bakr Khadija, Abu Bakr al-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, bas. Et quelques sahaba, Uthman ibn Affan, etc., quelques sahaba, qui embrassaient l'islam au compte-goutte avec peur, et se cachaient dans la madrasa de Al-Arqam ibn Al-Arqam. Si l'aide d'Allah a pris autant d'années pour arriver sur la Ummat en la présence du prophète, en la présence des meilleurs hommes qu'il y a de l'humanité, dont leur histoire, dont leurs valeurs ont été citées dans la Torah et l'Injil, les sahaba, comment peut-on se dire que oui, mais pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Allah a une sagesse qu'on ne peut pas comprendre dans ses décisions. Elle est là, on va voir, quand Allah il veut du bien pour quelqu'un, mais Allah il fait que la personne tombe malade, la personne a des problèmes, la personne a des soucis. Je ne comprends pas. Moi, en tant qu'être humain, je vois quelqu'un dans le pétrin, je me dis que, aïe aïe aïe, ça l'a dû faire pécher, Allah t'en sabote Ali ici. Et je vois l'autre monsieur là, il a tout, il réussit, hein, il va là un peu, tout de suite il gagne ce travail. Il gagne sa voiture quelques semaines après. Il a un logement. Il a ci, il a ça. Subhanallah. Il dit, ben lui, ça, un Bougallah, il aime ça. Bougallah n'est jamais malade. Bougallah n'a pas de problème. Bougallah est toujours heureux, toujours souriant. Il ne vient pas trop namaz, mais Allah, il a mal, il est sûr. Moi, en tant qu'homme, si je réfléchis avec mon cerveau, mon intelligence, cerveau, cervelle, avec mon intelligence, je me dis que lui qui a des ennuis, Allah, il n'aime pas lui. Lui qui est tout le temps heureux, qui est en l'air, tout le monde l'aime, Allah yamri la wallah, c'est exactement le contraire. Ce hadith, parce que ça m'explique bien, quand Allah, déjà on comprend qu'il n'y a pas, déjà il n'y a pas un être humain qui ne fait pas de péché. Ça c'est clair. On peut être Moussali, ici, on peut habiter Makkah Sharif, Madina Munawara, on peut être Fundi, Muhaddith, Mufti, Qadi, ce qu'on veut. À part que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un homme sur la terre qui ne fait pas de péché. Et quand quelqu'un fait des péchés, ben Allah, il sévit. Allah il peut pardonner, mais Allah il peut sévir également. Et au cas où si Allah décide de sévir, ça fait partie de la justice d'Allah, d'après vous. Quelqu'un qui boit, qui voit en boîte, qui fume, qui marche avec les filles, qui fait toutes sortes de bêtises. Est-ce que c'est normal qu'il ait le même grade auprès d'Allah que celui qui reste dans la masjid, qui baisse son regard, qui contrôle qu'est-ce qu'il mange, c'est halal, c'est pas halal, qui a la crainte d'Allah? Là, wallah, c'est pas normal. Mais Allah il est juste. Celui qui s'est laissé aller à ses plaisirs, ben Allah il prend une décision pour lui. Et celui qui reste dans le droit chemin, Allah le considère comme un mu'min. Alors, Allah Azza wa Jal peut sévir la personne dans ce dunya, ou alors garder la punition pour l'au-delà. Et ça c'est le deuxième cas de figure. Quand Allah il veut du mal pour quelqu'un, Allah il veut, on pourrait dire en parenthèse, en guillemets, enfoncer même la personne, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il fait? أمسك عنه بذنبي حتى يوافي به يوم القيامة. Allah Ta'ala fait en sorte que cet homme il vit de manière exemplaire pour nous. Il est heureux, il n'a aucun souci, et le fait qu'il n'ait pas de souci, qu'il n'ait pas d'épreuve, tous ses péchés restent incrustés dans son livre de compte, afin que lorsqu'il se présentera devant le tribunal d'Allah le jour de Qiyamah, il aura tous ses péchés qui seront là, et il aura à rendre compte pour chacun des péchés qui a été accompli. Tandis que celui qu'Allah aime, ça, parfois on remarque ça. Ça arrive qu'on a fait un petit truc qui n'est pas bien, qu'on a senti, là j'ai fait une bêtise. Parfois il arrive un problème après. Une maladie, on tombe malade quelques jours, il y a quelque chose à la famille, ou un accident, ou quelque chose qui nous cause du souci. On se dit que ça, c'est Allah Ta'ala, il envoie cela pour pardonner peut-être un péché que j'ai récemment fait. Et Allah Ta'ala, il peut éprouver la personne qui a fait un péché par différentes manières. Wa lanabluwannakum, c'est comment qu'on le dit, bishay imn al-khawfi. La peur, la faim, diminution dans les biens, dans les personnes, on perd quelqu'un de proche, dans les récoltes, c'est-à-dire les revenus de manière générale, et annoncer la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Et Allah peut éprouver la personne dans ce dunya, maintenant, Allah peut éprouver la personne au moment de mourir. Et ça, on voit beaucoup ça. Il y a des gens avant de mourir, ils sont malades. Un mois, deux mois, trois mois à l'hôpital, il souffre énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est en train de laver le cœur de cette personne. Tous les péchés qu'il a pu accomplir dans sa jeunesse, ou quel que soit son âge, Allah Ta'ala a décidé que cet homme-là, il va payer, en guillemets, payer de ses péchés maintenant. Nous, on voit que c'est dur, c'est une souffrance, mais ce n'est pas une souffrance. C'est un mal pour un bien. Afin que lorsqu'il se présente devant le tribunal d'Allah, s'il a déjà expié, il a payé en guillemets pour ses fautes maintenant, ben lorsqu'il rencontre Allah, Allah ne punit pas deux fois. Parce qu'Allah, il est juste, adl et hakim. Allah ne punit pas une personne deux fois. Donc, soit c'est dans son vivant,
soit c'est au moment de mourir, avant de mourir, les derniers instants, les derniers jours, les derniers mois de sa vie. Et le pire des cas de figure, c'est quoi? C'est quand c'est ni de se donner ni au moment de mourir, mais c'est là, tout est gardé le jour de Qiyama. Et vous savez, on ne peut pas comparer une difficulté de ce monde avec une difficulté de l'au-delà. Tout comme on ne peut pas comparer une seconde de bonheur ici et une seconde de bonheur là-haut. Le hadith dit que le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala appellera la personne qui aura le plus souffert dans l'humanité, le plus pauvre, le plus malade, l'homme le plus malheureux dans le monde entier à toutes les époques. Et cette personne goûtera, je ne sais pas si c'est, il entrera ou il verra, mais ce qui est sûr, c'est une seconde passe, le paradis. Et après cette seconde passée, Allah Ta'ala demandera à cette personne, maintenant raconte-moi, quelles étaient tes souffrances de ce monde? La personne dira, j'ai jamais connu de souffrance, oh Allah. Par rapport à cette seconde de bonheur qu'il a soit vu ou soit goûté, il a tout oublié toute sa vie de difficultés. Parce que le bonheur de l'au-delà, même une seconde, c'est mieux que tous les plaisirs de ce dunya, où ça peut compenser toutes les difficultés qu'on a pu vivre dans ce dunya. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. C'est ça la différence entre la volonté d'Allah et ce que moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, je perçois. Je veux ça. Mais Allah, il sait que ça, c'est pas bon pour moi. Il éloigne de moi. Moi, je dis, ah, m'a pas gagné. Mais Allah, il sait, si je t'avais donné, il t'aurait arrivé telle chose. Eh, c'est papa, m'y vient un moto. Il fait doigt. Il a fait doigt pour gagner son moto. Il n'a pas eu. Allah, il savait. Si tu avais eu telle chose, tu aurais arrivé tel accident, tu serais paraplégique, toute ta vie, tu serais dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on préfère? Et dans le cas de figure, je ne veux pas voir telle personne, je ne veux pas qu'il m'arrive telle chose. Allah décide que telle chose arrive, ce qu'on ne veut pas, mais il y a un bien dedans. Ça, c'est ma vision des choses. Et l'autre côté, c'est là, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on comprenne bien, il ne faut pas considérer les bienfaits, la joie, l'opulence comme un signe d'amour d'Allah pour la personne. En aucun cas. Dans ce monde, on va vous dire, si vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas une voiture, vous n'avez pas un travail, vous n'avez pas au moins 2000 euros de salaire par mois, ben, vous ne comptez pas. Vous êtes un homme malheureux, vous n'avez pas réussi dans votre vie. Mais qui a le droit de dire que toi tu as réussi, toi tu n'as pas réussi? Qui a le droit de dire que toi tu es un homme bien, toi tu es un homme pas bien parce que tu n'as pas fait des études ou tu ne gagnes pas tant? Là, Wallah, personne n'est en droit d'élever quelqu'un ou de rabaisser quelqu'un. Allah seul sait ce qui est bon pour l'homme et Allah est le seul juge. Donc, ne pas juger avec mes yeux, mais je dois juger comme Allah m'a expliqué en fonction de ce que le prophète nous a expliqué. Là, on voit la frontière qu'il y a dans la perception des choses. Regardez, c'est comme une personne qui est en train de mourir. Il est dans l'agonie. On voit la personne, parfois il y a des gens, il y a les cas où la personne souffre, ça on l'a déjà expliqué. Mais dans les commentaires, le hadith explique que même une personne qui est dans le coma, normalement le système nerveux ne perçoit rien. Douleur, émotion, il n'y a rien qui se passe. C'est comme un homme qui est mort, mais juste que son cœur bat avec une assistance matérielle. Si on débranche, la personne meurt. Même dans le coma, les ulama ils expliquent, si on ne voit pas de signe de souffrance apparente, comme les hadiths expliquent, comme Malik al-Maut prend l'âme d'une personne, c'est la plus grande douleur qu'un homme peut imaginer. C'est la pire des douleurs, même le prophète a trouvé dur le sakarat al-Maut, l'agonie de la mort. Même une personne donc meurt dans le coma, ou une personne meurt d'un accident, qu'Allah nous protège, en une fraction de seconde, la personne est écrasée, elle meurt tout de suite. Malgré ça, le laps de temps que l'ange vient reprendre son âme et l'enlève, elle souffre comme une personne qui est en train de se débattre devant nous, en train de souffrir. Même si moi je vois la personne raide, inconsciente, il y a des choses qui se passent, mais qui sont dans le alam al-raib, dans le monde de l'invisible que je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre, je ne peux même pas comprendre. Vous voyez la différence de perception? Je suis à 50 cm de mon papa qui est en train de mourir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la frontière qu'il y a entre moi, ce que je vois, et le monde qu'Allah Ta'ala a créé, le monde de l'invisible. On terminera avec un dernier hadith, ce troisième, on le gardera pour une autre fois. Ça, c'est sur la fréquence et l'intensité des épreuves. Dans le deuxième hadith, lorsque le prophète, alayhi salatu wasalam, dit que « Inna izwa mil jaza ima'a izwa mil bala » Plus Allah éprouve quelqu'un, plus l'épreuve est lourde et difficile, plus les récompenses sont grandes. Et ça, c'est logique. Et lorsqu'Allah Ta'ala aime, ça on a déjà expliqué, lorsqu'Allah Ta'ala aime une communauté ou une personne, Allah Ta'ala éprouve cette personne. Maintenant, celui qui accepte la décision d'Allah, ben, il sera rétribué comme il le faut. Maintenant, si la personne est mécontente ou se rebelle contre le destin, ben, la personne pourrait dire que Elle a que ça, sa colère, et elle a perdu la valeur de l'épreuve. Il y a deux choses qui nous intéressent, fréquence et intensité. Il y a des gens qui sont éprouvés une fois de leur vie, il y en a qui sont éprouvés très souvent. Et le prophète alayhi salatu wasallam a dit Ashadu nas bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Les gens qui étaient le plus éprouvés, c'étaient les prophètes. Ensuite, ceux qui se rapprochaient d'eux. Plus quelqu'un a un degré de foi élevé, plus la personne doit s'attendre à être éprouvée. Il n'y a pas eu des musulmans qui ont été plus éprouvés dans ce dunya que les sahaba, lorsqu'ils ont connu les 13 premières années à Makkatul Mukarrama. Et il y a des personnes, qui sont éprouvées toute leur vie. Il y a des gens, ils ont tellement de problèmes de leur vie, mais ils ne comprennent pas qu'avec ces problèmes, ces épreuves, Allah est en train d'enlever, enlever leur péché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le péché est fait, le péché est enlevé par la maladie ou la douleur ou l'épreuve ou le chagrin. Elle dit que Yamshi ala al-ard wa ma alayhi min khatiya, cet homme, il marche sur la terre, c'est une expression, et il n'y a pas un péché dans son livret de compte. Il ne sait même pas qu'il n'y a rien, parce que tout est effacé immédiatement. Et lorsqu'il va mourir, il va rencontrer Allah, il rencontre Allah avec un casier judiciaire, on pourrait dire, qui est totalement vierge. Ce sera l'homme le plus heureux auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la fréquence. Maintenant, concernant l'intensité, il faut savoir que Allah Azza wa Jal n'éprouve jamais une personne au-delà de sa capacité. Quand une personne a une foi solide, Allah Ta'ala enverra des épreuves difficiles. Mais si quelqu'un est faible, psychologiquement la personne est faible, Allah Ta'ala ne va pas l'éprouver. Ça n'existe pas qu'une personne se suicide à cause d'un malheur. Ça, normalement, ce n'est pas possible. Parce que si Allah éprouvait quelqu'un, c'est qu'Allah il savait que sa foi le permet normalement de résister, de trouver le sabar, la patience, la confiance en Allah et la confiance sur les décisions d'Allah, c'est le taqdir, nécessaire pour gérer l'épreuve. Maintenant, si la personne n'a fait aucun effort et elle a fait des bêtises, c'est que la personne elle-même, elle n'a pas essayé de lutter, de soutenir, de rester ferme dans l'épreuve avec les qualités de iman qu'elle avait. Mais jamais Allah ne presse personne et Allah n'éprouve jamais une personne au-dessus de sa capacité. C'est pour ça que le hadith dit « فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَىٰ بَزِيلَ فِي بَلَاءِ » Plus la foi est forte, plus ses épreuves seront difficiles. Et pour les gens qui sont moins patients, qui ont moins de potentiel, dans le hadith, il dit que « حَتَّ الشَّوْكَ » Même une épine, vous marchez, il y a un verre bouteille ou un aiguille ou une épine qui vous pique le pied, ça aussi c'est une épreuve de la part d'Allah. Ça commence à ça l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas quand il vous arrive un grand malheur, non, pas forcément. Il suffit que quelque chose vous pique, vous vous coupez le doigt en coupant un mangue ou je ne sais quoi. Ça aussi, ça fait partie des épreuves à condition qu'on ait une main de le cœur. Dans le hadith, il dit même Souda'ul mu'min. Lorsqu'un musulman il a mal à la tête, ça aussi, c'est une épreuve de la part d'Allah. Avec ses petites douleurs, Allah il peut pardonner quelques péchés. On voit comment Allah aime le musulman. Et lorsqu'Allah éprouve, Allah attend une réaction de notre part. Mais ça, c'est réservé uniquement à ceux qui ont la foi de leur cœur. Et c'est ça l'importance du iman. Avec le iman, on peut gérer toutes les situations de la vie. La prochaine fois, on a fait 30 minutes déjà, la prochaine fois, 23, c'est suffisant, Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir un hadith, un récit qui est merveilleux, je vous explique juste le contenu, et on développera ça la prochaine fois, parce que c'est très long, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. C'est l'histoire de Umm Sulaym, radiallahu anha, qui était la maman de Anas ibn Malik, le grand muhadith, radiallahu anhu majma'in. Umm Sulaym, elle avait un fils, donc elle était mariée avec Abu Talha. Donc ils avaient un enfant, ils avaient des enfants, et parmi ces enfants, il y en avait un qui était très malade. Alors cet enfant était malade, et Abu Talha était sorti de la maison. À son retour, il ne savait pas en son absence, l'enfant est décédé. À son retour, il vient voir, il rentre à la maison, la première question qu'il pose à son épouse, comment va l'enfant? Et la femme avait dit aux gens de la maison, ne parlez pas, n'informez pas Abu Talha du décès de son fils. C'est moi qui lui dira personnellement. Et ne manifestez pas de tristesse, il faut qu'il ne s'aperçoive de rien. Lorsqu'il rentre, Abu Talha demande, et Umm Sulaym dit que l'enfant est plus calme. Il n'a jamais été aussi calme. C'était une phrase, ce n'était pas un mensonge. Dans le fond, elle a voulu dire que l'enfant est décédé, il est calme, c'est-à-dire il ne bouge plus. Mais il voulait qu'Abu Talha comprenne que l'enfant est calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Abu Talha a compris, à travers ce que la femme a dit, que l'enfant est bien, il est en bonne santé. Abu Talha était content. C'est comme n'importe quel papa qui sait que l'enfant a 42 fièvres, il vient à Mazicha, l'enfant a 42 fièvres. On a souci, on rentre à la maison, première chose, madame, alors combien à descendre? Madame dit, la fin arrive 37. Elle dit, ah, t'es content. Là, alhamdulillah, on est soulagé. Là, on va regarder télévision. Là, on va faire... Mais autrement, on est sur le stress. On a peur, on va à l'hôpital, on va faire... D'accord ? C'était des êtres humains comme nous, subhanallah, les sahaba. Ils aimaient leurs femmes, ils aimaient leurs enfants. Ils avaient les mêmes soucis, les mêmes craintes que nous. Mais la gestion des soucis, des craintes, c'est à notre niveau. Alors, il demande à sa femme... Oui, la femme dit que l'enfant est tranquille. Votre Allah est content et il va se mettre à table. S'il savait que l'enfant était mort, il n'aurait pas mangé. Il serait fait du souci pour enterrer l'enfant, le janaza, etc., etc. Donc la femme avait cuisiné un plat particulièrement copieux. Abu Talha a mangé. Et ce soir-là, la femme a décidé qu'Abu Talha, il ne dira rien à son mari. Et ils ont dormi ensemble. Ils ont même eu des relations pendant cette nuit. Le lendemain, qu'est-ce que la femme dit à Abu Talha ? Elle dit, Abu Talha, regardez, c'est un exemple, c'est formidable. Regardez les femmes des sahaba et nos femmes à nous, Allah musta'an. Il dit ça à Abu Talha, elle dit, oh Abu Talha, supposez que on emprunte avec des voisins quelque chose. Des gens nous prêtent quelque chose. Et que quelque temps après, les gens viennent chez nous, ils veulent récupérer la chose qui a été prêtée. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère et de dire non, ne reprenez pas ? Abu Talha, il écoute, ne comprend pas exactement ce qu'elle veut dire. Ben non, si ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'autre personne, ben on rend. Ça, on n'a même pas à s'interposer. Abu Muslim dit dans ce cas, garde confiance en Allah et sache qu'Allah te rétribuera, tu as perdu ton enfant. Abu Talha était saisi. Il s'est mis en colère, il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit hier ? Tu m'as laissé entrer, tu m'as laissé manger, même avoir des relations avec toi, tu ne m'as pas dit que mon fils était mort. Ils vont voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pose la question. Il dit, est-ce que vous avez eu des relations hier soir ? Abu Talha dit oui. Il dit qu'Allah Ta'ala mettra la bénédiction dans ces relations. Donc, ça veut dire qu'Allah Ta'ala vous accordera une progéniture, Inch'Allah, qui sera la fraîcheur de vos yeux. Le prophète m'a demandé doua pour Abu Talha et Umm Sulaym de cette union qu'il y a eu la veille. Et là, les muhadithis expliquent que d'autres sahaba disent que Abu Talha a eu 9 enfants par la suite. Et ces 9 enfants, ils maîtrisaient le Coran. Ça, c'était par le baraka du doua du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, l'histoire est encore longue quand sa femme allait accoucher, quelles étaient les difficultés, comment Allah envoyait son aide. On va garder ça pour la prochaine fois. Mais vraiment, c'est une histoire magnifique où on voit comment gérer les situations les plus critiques de la vie. Pas avec un psychologue à votre droite, un psychiatre à votre gauche, un jeune pédopsychiatre, ou un etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pas besoin d'une équipe de psychologues. On a iman dans le cœur, on gère les saisons. Et normalement, une femme, elle est plus fragile qu'un homme, psychologiquement, normalement. Une femme qui connaît son fils est mort, elle va te frapper la tête, va hurler, pleurer, elle va appeler sa maman, la grand-mère, la soeur, tati, tata, tout le monde va venir, tout le monde va pleurer, etc., etc. Vous savez, femme des sahaba, iman, qawi, formé dans leur cœur. Il sait ça vient de la part d'Allah, cet enfant-là. Hein, Allah me l'a donné. Je n'ai pas acheté ça. Allah me l'a donné. D'accord ? Et si Allah le reprend, ça appartient à Allah. Inna lillahi. On appartient à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Tout le monde connaît cette phrase. Et tout le monde connaît le sens. Mais s'il nous arrive un malheur, qui c'est qui est capable de mettre ça en pratique ? Ça, c'est un autre niveau. Un autre niveau. C'est le niveau des sahaba. La patience de Umm Sulaym et la patience d'Abu Talha lorsqu'il a pris la nouvelle. Et le barakat qu'ils ont eu par leur patience. On verra cette histoire la prochaine fois. Tawfiqillah billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mes chers frères, vous savez qu'il y aura le Jalsa le 12 juin. Le Jalsa de 5 Cloutides qui sera fait avec la madrasa du Moufi.